sur les ondes de Cheese 94.3 FM.
Bon, on nous a demandé de faire une promo, Félix. As-tu préparé quelque chose?
Non, toi?
Pas vraiment, là.
Moi non plus, je sais pas vraiment quoi dire, là.
Tu pourrais commencer par dire que notre émission s'appelle De l'eau dans la cave, que c'est une émission qui veut profiter du talent de la scène de l'impro à Québec par le biais de chroniques, de sketchs puis de capsules informatives.
OK, ouais, bonne idée. Ça s'appelle De l'eau dans la cave et on veut profiter du talent de la scène de l'improvisation à Québec avec des chroniques, des sketchs et des capsules informatives.
Bon, puis pour finir, tu pourras leur raconter la fois au chalet.
OK, d'abord, l'année passée à mon chalet.
Non, ça serait mieux pas. De l'eau dans la cave, c'est ton rendez-vous décapant et hilarant tous les mercredis 22h à Chiz 94.3.
En onde, les amis, les gens étaient un peu partis dans leur discussion.
C'était trop intéressant.
Eh bien, oui, c'est une émission Question de savoir qui commence un peu comme ça sur un petit dérapage contrôlé. En votre émission des deuxième, troisième cycle, Louis-Philippe Tremblay, qui est derrière le micro, émission qui est présentée par l'Allié, qui est l'association des étudiants de deuxième, troisième cycle à l'Université Laval. Je vais vous présenter sans plus tarder un peu les gens qui jasaient là, pendant qu'on a démarré ça en trombe. Ben, je suis en compagnie de Catherine Asselin, qui est vice-présidente aux droits étudiants à l'Allié.
Bon midi. Bonjour Louis-Philippe, désolé pour le...
Ah non, c'est vraiment pas grave.
Le trou de conversation qu'on a.
On est tellement à l'aise là, déjà, là, on commence ça en grand. On est aussi en compagnie de deux personnes qui viennent de la Fémule. Frédéric Sénéchal, bonjour.
Bonjour.
Et aussi Charlotte Barry. Là, j'avais pas vos postes ou termes. Je sais pas si vous pouvez vous présenter peut-être un petit peu.
Ben, en fait, mon poste est responsable des finances. Par contre... dans la Fémule, on fait pas mal plus que le poste qu'on est supposé
faire. Oui, j'imagine.
Donc, c'est très diversifié parce que si c'était seulement des finances, je pense pas que j'aurais autant de plaisir. Mais oui, c'est ça, mon poste, c'est les finances.
Puis pour ma part, moi, je ne suis plus en tant qu'exécutante de la Fémule, mais j'ai été pendant 2 ans à la gestion administrative et comme co-coordonnatrice.
Super. Ben on vous a invité aujourd'hui pour me mettre un peu en contexte. En fait, c'est que la journée internationale de la femme, si je me trompe pas.
Des femmes.
Oui, c'est vrai. Ça a changé qu'il y a quelques années, hein, de là et des.
Ouais.
Donc, des femmes, c'est le 8 mars. Oui. Mais le 8 mars, on est en mi-session. Et il n'y a pas d'émission de questions de savoir, puis on est tout un peu en pause d'information. Donc, on a décidé de vous inviter cette semaine pour nous en parler un peu, puis vous nous parler évidemment là, des activités de la Fémule. Je vais passer la parole peut-être à Catherine avec ses questions pour démarrer cette belle discussion-là, justement, là, pour une demi-heure.
Oui, bien en fait, là, bon, on va commencer avec des questions un peu simples, là, mais qui est quand même pertinent de le mentionner. Bien, j'aimerais ça que vous me présentez un peu la Fémule. C'est quoi les missions un peu de la Fémule sur le campus, puis depuis quand ça existe aussi, bref, si vous voulez nous faire un petit résumé un peu de la Fémule à ce sujet-là.
Oui, en fait, la Fémule, c'est une association qui est parascolaire, qui a beaucoup d'objectifs de mission reliés au féminisme, comme par exemple de promouvoir l'égalité, l'autonomisation des femmes, la diversité à tous les niveaux de la société. On veut aussi promouvoir l'accès aux ressources qui favorisent la réussite des jeunes femmes. Et on veut prendre position sur des sujets qui sont débattus publiquement, qui ont un impact sur la condition des femmes. On pense tout de suite d'ailleurs aux stages non rémunérés, qui touchent particulièrement les milieux typiquement féminins. Et on dénonce aussi les inégalités qui sont liées au sexe au Québec et à travers le monde aussi. Si vous suivez notre page Facebook, vous allez voir qu'on est très au fait de l'actualité. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on veut promouvoir un féminisme qui n'a pas la prétention d'être unique, mais qui est unifié, dans lequel toutes les femmes peuvent s'émanciper et s'affirmer. On prône aussi un féminisme qui est intersectionnel. En fait, l'intersectionnalité, c'est d'être conscient dans notre féminisme que différents types d'oppressions peuvent se vivre de manière simultanée. Comme par exemple, une femme de minorité visible va vivre non seulement les oppressions liées au genre, mais aussi liées au racisme. Donc, c'est en gros, ça, par contre, il y a d'autres choses aussi, comme par exemple informer la communauté universitaire sur la condition féminine d'ici et d'ailleurs. Donc, c'est à peu près ça pour ce qui est de nos objectifs.
Bien, ouais. C'est quand même assez... Il y en a beaucoup quand même, là.
Oui, effectivement.
Assez varié.
Oui.
Ça, c'est parce qu'il reste encore pas mal de trucs à faire par rapport au féminisme. On risque d'en parler un peu plus tard, là, probablement. Aussi, qu'est-ce que j'aimerais juste rajouter sur ce que Fred en a dit, la FEMUL, c'est une asso mixte.
Oui, effectivement.
C'est ça sa particularité. Mm-hmm. Donc, ça s'adresse autant aux hommes, aux femmes, aux personnes non-binaires, etc. Parce que, dans le fond, le but, c'est vraiment de rejoindre l'ensemble de la communauté universitaire. Et pour l'historique, là, rapidement, ça a été créé en 2011 comme association.
OK, c'est quand même récent.
Oui, oui, c'est ça. Et là, ça a pris une pause pendant une couple d'années et c'est reparti en 2015. Fait que ça fait vraiment pas longtemps là, qu'on est reconstitué. Et ça va, le phénomène...
En expansion. Ouais, ben justement, ça, comme 2015, comment est-ce que vous expliquez qu'en 2015, soudainement, la FEMUL est repartie de plus belle? Est-ce que c'est une nouvelle équipe où il y a eu une effervescence des causes féminines dans les médias, où on en entendait de plus en plus parler?
Ben c'est sûr qu'il y avait des gens qui étaient à l'université à ce moment-là qui étaient vraiment motivés à repartir la machine. Puis le féminisme, on s'entend, à chaque année, il y a comme des épisodes, tu sais, où est-ce qu'on en parle plus. Mm-hmm. Donc, suite à ça, on s'est dit, pourquoi pas le relancer.
Bien, justement, on parle de féministe, un mot à plusieurs connotations et plusieurs définitions. Mm-hmm. Je vais poser une question large un peu. C'est quoi pour vous le féminisme en 2019? C'est quoi la pertinence de ce mouvement-là? Puis qu'est-ce que vous défendez au sein de la FEMUL?
Ouais, ben le féminisme, comment on le traduit pour vraiment que ce soit accessible à tous, là? Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de définition... canée coulée dans le béton du féminisme. Donc, nous, on l'a traduit par un besoin d'égalité entre les genres, entre les personnes de toutes sortes, là, femmes, hommes, non-binaires, etc., etc. Encore aujourd'hui, on vit plusieurs oppressions. Je dis « on » en tant que...
Parce qu'en fait, on dit souvent qu'il y a autant de définition de féministe que de féministe. Donc, ça peut être très, très, très varié. Mais
il y a beaucoup de façons de vivre le féminisme aussi. Il y a beaucoup de façons de militer, finalement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va en parler plus tard, mais on n'est pas la seule association féministe sur le campus. On va vous en reparler tout à l'heure, mais on est tous différentes dans notre féminisme. Par contre, je pense que quand on regarde ça globalement, on a toutes le même objectif, qui est l'égalité. L'atteinte de l'égalité à tous les niveaux. Puis là, on va vous expliquer rapidement, selon nous, pourquoi c'est encore pertinent, pourquoi l'égalité n'est pas encore atteinte dans différents milieux, en fait.
Puis, dans le fond, justement, avec tous ces féminismes-là, finalement, qui se rencontrent, comment vous, en tant qu'organisation, vous gérez, si on veut, toute cette pluralité-là, là, dans le fond? Dans le quotidien.
Le plus important, en fait, pour nous, c'est vraiment l'ouverture. On est ouvert à la communauté universitaire parce qu'on est là, en fait, pour la communauté étudiante. Mm-hmm. Donc, on est ouvert aux suggestions d'activités, on est ouvert à différents types, que ce soit participer à des manifestations, que ce soit juste sensibiliser. Par contre, on est vraiment toujours dans le respect de nos valeurs qui sont justement le respect, l'écoute, l'ouverture. Donc, je pense qu'en fait, les différents sortes de féministes, parce que même au sein du comité exécutif de la FEMUL, on est toutes d'un background différent, on est toutes d'un milieu différent, dans des bacs différents, dans des études différentes. Donc, ça fait qu'on est très, très différentes, mais je pense que ça amène une richesse. Ça fait qu'il y a différentes sortes de féministes qui sont plus, par exemple, militants, moins militants, plus observateurs, plus sensibilisateurs. Ça fait que ça amène une richesse, puis que nos événements sont très diversifiés. Comme la session dernière, on a fait un micro ouvert. Je peux vous dire que ça n'aurait pas été ma propre initiative de faire un micro ouvert parce que mon côté artistique est assez caché au fond de moi. Je ne l'ai pas encore découvert. Non. Par contre, ça l'a touché complètement une frange différente de la population. Fait que c'est extrêmement pertinent d'avoir cette richesse-là au sein de la FEMUL.
Puis aussi, le dédoublement d'associations là, au sein du campus. T'sais, on est plusieurs associations féministes qui, fondamentalement, on veut la même chose, l'égalité, mais c'est important d'avoir cette pluralité-là au niveau des associations parce que, justement, on ne le vit pas de la même façon. Notre féminisme, on a besoin de groupes avec qui on se ressemble. Donc, pour partager ces choses-là. Donc, si je pense, par exemple, au comité femmes, eux aussi, ils veulent l'égalité là, comme nous. C'est juste que eux, c'est un regroupement non mixte de femmes qui ont vraiment une frange plus militante. Il y a aussi le comité femmes de philo. Il y a plein d'associations qui ont leur...
Ouais, c'est ça. Dans le fond, chaque association peut aussi avoir un comité femmes qui peut être plus dans un bassin peut-être plus précis de membres.
Oui, absolument. Il y a même, par exemple, la droit, qui a leur branche droit et féministe. Plus penché sur les femmes en particulier. Okay. Fait qu'on en retrouve dans beaucoup d'associations. Ça nous permet d'avoir une vision qui est vraiment plus globale.
Donc, c'est quelque chose de positif, selon vous, que vous voyez ça sur le campus, justement, qu'il y ait de plus en plus d'associations féministes qui n'ont pas nécessairement la même branche, les mêmes méthodes pour de faire, mais c'est positif, vous voyez ça de façon... Il n'y a pas de compétition entre les groupes,
non,
ou du moins...
Non, absolument pas. Je pense qu'en fait, on voit ça plus... on se complète. C'est vraiment ça, c'est qu'on se complète dans un but commun. Puis ça fait juste faciliter les choses. C'est sûr que ça demande une ouverture, mais ça, c'est pas un problème parce que ça fait partie de nos valeurs.
Mm-hmm. Puis notre objectif, au final, c'est vraiment la sensibilisation, parler du féminisme, le faire connaître, déconstruire les préjugés qui y sont associés. Donc, je pense que, justement, on a tout à gagner en embrassant cette diversité-là puis en faisant des partenariats là, avec d'autres associations féministes sur le campus.
Puis, je reviens à ma question un peu. On en a parlé brièvement, mais selon vous, en 2019, en ce moment, là, c'est quoi les plus gros défis que peuvent avoir un mouvement féministe? On peut parler de la FEMUL, mais en général, là, c'est quoi les défis et les enjeux vraiment importants à aborder?
Ouais, bien, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Tu peux te répéter la question?
Non, mais je disais, en fait, les enjeux qu'on peut observer en 2019. Ben, par exemple, on parle souvent de la place des femmes dans le milieu du travail, l'équité salariale. Bon, c'est des enjeux qu'on parle depuis plusieurs années, mais spécifiquement en 2019, là, si vous aviez un enjeu à dire pour le féminisme, ça serait lequel ou lesquels?
On n'en a pas juste un.
Oui, j'imaginais qu'on avait plusieurs.
On aimerait ça en avoir juste un. Malheureusement, c'est pas le cas parce que c'est sûr que ça se vit différemment dans tous les milieux. Si on regarde juste, par exemple, la rémunération des stages, mais sinon, au niveau politique, il y a encore... C'est d'ailleurs ce pourquoi on est venu parler à l'émission L'Allongée la semaine dernière, où il y a récemment. puis on a pu faire 15 minutes là-dessus sur les oppressions qui sont encore présentes. Fait qu'on va essayer de vous faire un petit topo rapide là-dessus.
Ouais, c'est ça. Fait que... OK, ben il y a plusieurs enjeux, mais c'est sûr qu'au niveau du marché du travail, tu l'as bien dit, il y a encore plusieurs problématiques, juste parce que les femmes vont occuper majoritairement des emplois
plus précaires,
au minimum, mais plus que les hommes, en tout cas. Mm-hmm. Là, donc, tu sais, ça va être beaucoup plus des femmes qui vont être touchées par ce problème-là. Aussi au niveau décisionnel, les conseils d'administration dans les différentes entreprises, c'est majoritairement des hommes qui les occupent. Donc, toute la question des postes décisionnels, là, c'est surtout des hommes, plus d'hommes. On commence à avoir une augmentation de femmes quand même, mais on n'est pas à une égalité, on n'est pas à une parité ni même à une égalité du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment continuer à travailler là-dessus. Puis même si encore aujourd'hui, il y a une loi qui régit l'équité salariale, bien, à travail égal, une femme gagne quand même seulement 77% environ du salaire d'un homme. Donc, c'est vraiment à des inégalités comme ça qu'il faut s'attaquer. Puis comme Fred l'a dit, la question de la rémunération des stages, ça, c'est vraiment un enjeu féministe aussi.
Parce pour revenir à la rémunération des stages, c'est... La plupart des stages non rémunérés vont être dans des métiers traditionnellement ou typiquement féminins, donc ça va toucher davantage
la majorité de femmes. Oui, absolument.
Exactement. Tu sais, sciences infirmières, travail social, psychologie, psycho-aide, etc. Éducation, c'est 85% du corps d'enseignants, de futurs enseignants environ, que c'est des femmes. Donc, c'est sûr que ça amène plusieurs enjeux aussi. Mm-hmm.
Bien, c'est intéressant de vous entendre parce que récemment, on a l'impression qu'on en parle beaucoup dans les médias avec, hashtag MeToo, le consentement. On dirait qu'il y a une vague de mouvements féministes où on en parle de plus en plus, mais de ce que vous semblez me dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire puis que statistiquement, bien, on trouve la parité n'est pas encore là, t'sais, malgré qu'on on peut avoir l'impression, en premier regard, que, c'est l'égalité est présente. Il y en a de plus en plus.
Mm-hmm. Oui, puis on entend souvent parler... on entend parler des quotas et tout ça, puis sans s'arrêter à ça, avant de parler de quotas, je pense que c'est important de parler de pourquoi, en fait, pourquoi les femmes mm-hmm. sont moins présentes en politique. On en a discuté, justement, Charlotte et moi, hier, puis on en est venu à la conclusion que, en fait, l'arène politique, de la manière qu'elle est construite, de la manière qu'elle est faite actuellement, c'est vraiment... pas très accueillant, en fait, pour les femmes qu'on considère plus sensibles et tout ça. Les médias aussi ont un rôle à jouer là-dedans, sur l'image qu'on va percevoir. On va catégoriser les femmes sur... pardon.
C'est de la faute de Catherine.
Mais je comprends, en plus, je suis sur mode avion.
Oups!
Puis si on regarde, par exemple, on a sorti quelques des petits faits intéressants. Une fois, dans l'arène, par exemple, ils reçoivent beaucoup d'attaques, comme par exemple Norm Macmillan, qui avait traité Sylvie Roy de, excusez-moi le terme, grosse crisse. Gaëtan Barrette aussi, qui avait harcelé Diane Lamar pendant un an, mm-hmm. Vraiment de manière malsaine, qui était totalement non professionnelle. La politique semble pas être un monde qui est très accueillant pour les femmes.
Mais oui, puis on peut même revenir à la question de l'apparence où
oui,
tu sais, on parle
absolument.
Beaucoup plus de l'habillement des femmes finalement que celle des hommes, qui est plus peut-être un peu celle des hommes est peut-être un peu plus encadrée.
Ouais.
Tout le monde met un veston puis une cravate puis c'est pas grave, alors qu'on va plus regarder l'habillement des femmes, la coiffure aussi, ces choses-là.
Absolument, puis ce phénomène-là, en fait, de l'arène politique, fait que les femmes ont, selon certaines études, les femmes se perçoivent plus comme des travailleuses sociales qui travaillent pour le bien de la communauté.
Mm-hmm.
Ils vont aborder plus une approche de consensus, de collaboration, tandis que les hommes, on parle plus souvent de confrontation. Ils se perçoivent plus comme des agents de développement. Donc, ils se lancent en politique pour faire carrière. C'est pour ça qu'on va retrouver plus de femmes sur les conseils d'administration d'organismes communautaires, par exemple, des mm-hmm. choses comme ça. Donc, nous, on se pose la question, en fait, comment on pourrait favoriser, dans le fond, changer un peu cette vision-là, parce que, veux, veux pas, le milieu politique, ce qu'on veut, c'est la représentativité, parce mm-hmm. qu'on veut que mm-hmm. la politique représente, en fait, la société, parce que c'est les gens qui sont supposés de nous représenter. Donc, on pense que c'est vraiment important de se poser la question à ce niveau-là.
Puis sur le campus, je pose la question, parce que, bon, l'université, on est un milieu ouvert, éduqué. On peut penser que c'est des sujets que les gens sont au courant. Puis bon, c'est quoi les défis pour la FEMUL de sensibilisation sur le campus? Comment vous percevez la réception des étudiants et des étudiantes?
C'est sûr que c'est très varié, là. On n'a pas fait de sondage dans toutes les facultés, mais c'est sûr qu'il y a... par exemple, travail en sciences sociales, où on sait que les gens vont avoir plus tendance à venir vers nous. Par contre, moi, personnellement, je perçois une ouverture au sein du campus universitaire. Justement, ça se traduit dans les associations mm-hmm. où il y a différentes branches et tout ça. Mais je pense que, tu sais, on se rappelle qu'il y a quand même eu encore cette année, en début de session, lors des initiations, certaines allégations de GHB, en fait, au sein mm-hmm. du campus. Ça arrive régulièrement. Et aussi, on pense que... ça va être mon point de vue personnel, mais
c'est
je pense
historial.
Que la culture du viol, en fait, c'est comme un mythe, selon certains. Donc, c'est encore important d'en parler parce que on pense que ça joue beaucoup sur, par exemple, les initiations sur... la façon que les femmes sont perçues. Mm-hmm. C'est vraiment l'université, moi, je vois ça comme une micro-société. Là. Donc, c'est mm-hmm. sûr que tous les points de vue sont là, mais on est là pour les gens qui veulent bien écouter notre propos.
Oui, puis pour compléter sur ce que Frédéric a dit, petite anecdote, juste la session dernière, il y avait la professeure qui parlait de... aux États-Unis, il y avait eu... une situation avec un sénateur, Kavanaugh. Exactement. Puis il y avait un gars dans ma classe, ça m'avait frappé, qui avait dit « Ah, mais la culture du viol, de toute façon, ça n'existe pas. » Tu sais, ça, c'est la session dernière, là, ça fait pas longtemps. Donc ça, ça a juste remontré qu'il faut continuer nos luttes. Mm-hmm. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé sur le campus, les agressions... le fameux « fermez vos... barrez vos portes » tu sais dans les résidences, mm-hmm. etc. Quand il y a eu la tribune aussi à l'Université Laval, tu sais, on voit que c'est encore vraiment un phénomène présent. Le GHB aussi, tu sais, c'est criminel, mais c'est encore super, c'est encore présent sur le campus. Puis justement, ça nous démontre qu'il faut vraiment pas arrêter notre mobilisation maintenant. Oui, on a un momentum en ce moment avec le MeToo, tout ça, mais c'est juste le moment de encore plus faire de mob puis de sensibiliser les gens à comme au fait que on a encore du travail à faire. Là.
C'est d'ailleurs pour ça que on a été au camp de formation de la CADEL pour faire une courte conférence sur justement la façon que les associations étudiantes pouvaient favoriser l'implication des femmes. Puis j'ai été agréablement surprise de voir l'intérêt, en fait, mm-hmm. des différents exécutants d'appliquer ça, d'appliquer, en fait, des mesures qui sont inclusives. Donc, pas seulement vraiment, là, d'enlever tout ce qui est les catégories, en fait, pour vraiment rejoindre le plus de gens possible, parce qu'au fond, c'est ça qu'ils veulent vraiment, les associations, c'est représenter les gens, leur micro-société, finalement. Là. Mm-hmm. Donc, il y avait une dans très grande ouverture. Oui, absolument.
Puis justement, là, vous parlez un peu de sensibilisation, de mobilisation. C'est quoi les actions que vous avez là, pour cette année à venir ou les grandes campagnes que vous avez faites cette année dans la session d'automne?
Donc, on a quand même fait plusieurs choses. Ce qui est important de savoir, par contre, ça a été un petit peu compliqué parce que comme beaucoup d'associations scolaires ou parascolaires, la mobilisation est quelque chose qui est assez difficile, en fait, de mobiliser les gens.
Ouais, ouais.
Ce que ça, ouais, effectivement, ce que ça a fait, c'est que la session, en fait, l'année passée, quand l'exécutif sortant a fait son AG d'élection, il n'y avait pas eu le quorum. Donc, nous, on s'est présentés en septembre, en fin septembre.
Qui a eu un moment avec pas d'exécutants,
Oui, c'est ça. Fait que la transition s'est faite en octobre, disons, très rapidement. Donc, on a été comme envahis par toutes les demandes parce que c'est important de savoir que la FEMUL est extrêmement sollicitée pour des collaborations, pour des participations, des événements, des activités, pour prendre la parole, pour prendre position, pour être présent à des conférences de presse. Donc, ça fait que on a tant bien que mal réussi à organiser des événements, comme par exemple le micro ouvert qui a été mm-hmm. vraiment une réussite en décembre dernier. On a aussi fait un café de discussion fou allié. On a aussi fait... j'essaie de me rappeler de tout parce que justement, ben,
Vous avez aidé aussi à le camp de faux...
Oui, on a participé au camp de formation féministe de l'AC qui se déroulait mm-hmm. sur le campus, qui était d'ailleurs vraiment intéressant. Sinon,
un comité d'écriture.
Oui, actuellement, on travaille sur un comité d'écriture épicène. En fait, on mm-hmm. a mis ça sur pied au début de cette session-ci. C'est une de nos exécutantes, Sarah Jane, qui travaille dessus avec une équipe de gens qui se sont portés volontaires pour participer à ça. En fait, c'est un projet qui vise à démystifier l'écriture inclusive pour créer un guide de rédaction pour outiller et sensibiliser la communauté universitaire.
C'est vraiment intéressant.
Oui, ça s'adresse autant aux étudiants, aux professeurs, aux assos, etc. Notre but à long terme avec ça, c'est que les élèves puissent utiliser cette forme d'écriture puis qu'ils ne soient plus pénalisés pour ça parce qu'on sait qu'actuellement, mm-hmm. il y a, je crois, seulement sciences politiques, il y a une politique là-dessus. Sinon, ça revient aux professeurs de décider ce qu'ils acceptent ou pas.
Ben oui, puis c'est intéressant pour nos membres aussi également, là, des membres qui voudraient peut-être écrire leur mémoire, leur essai, leur doctorat, pourquoi
des,
pas,
des en fois, écriture c'est, épicène, c'est, hein? Pas qu'on, c'est pas de mauvaise volonté, c'est qu'on sait pas nécessairement
exactement.
Comment
c'est ça, guide, exactement.
C'est sûr que ça
exactement,
fait
que on a pensé aussi aux professeurs qui savent pas nécessairement comment l'utiliser. Mm-hmm. C'est sûr que l'écriture épicène, c'est pas une seule façon. Là. C'est,
non, c'est sûr.
L'important, c'est d'utiliser toujours la même forme. Par mm-hmm. contre, il faut les connaître, ces formes-là. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a mis ça en place, bien, qu'on est en train de travailler là-dessus. Puis on espère que c'est un outil qui va servir à rendre les textes plus inclusifs et mm-hmm. de donner un outil, en fait, pour toute la communauté universitaire.
Oui, puisque même nous, à l'Allier, là, dans nos documents, des fois, là, on est comme...
On
se tire les cheveux, puis on est comme... Bon, on a quand même à l'interne... une petite façon de faire, mais
c'est d'avoir un guide,
un outil absolument. Comme ça, j'ai hâte de l'avoir dans mes mains.
Puis ça, c'est un petit geste, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais je veux dire, ça peut sembler comme un détail, par contre, ça va jouer pour beaucoup à favoriser l'implication des femmes, à favoriser mm-hmm. de rejoindre, en fait, tout le monde, parce que ça s'adresse à tout le monde.
C'est ça exactement qu'un texte n'est pas l'air de ne pas s'adresser à une tranche de la société.
Absolument. Puis on a jusqu'à maintenant ressenti une belle ouverture de la part mm-hmm. de l'université à ce niveau-là, de la rectrice. Fait qu'on espère que ça va avancer rapidement une fois que le guide va sortir.
Super. Puis, est-ce que vous avez des activités qui s'en viennent
absolument.
Un peu plus?
En fait, je vous dirais que ce qui prend la majeure partie de notre temps depuis la session dernière, c'est la journée d'activité pour la journée des femmes qu'on organise le 14 mars. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le 8 mars...
C'est un peu mort à l'université.
Effectivement. Donc, on a abandonné cette idée-là tout de suite. C'est une initiative de la FEMUL qui se fait en collaboration avec la CADEL et de nombreux autres partenaires. C'est un événement qui se déroule au pavillon des Jardins durant toute la journée. Je ne peux pas encore vous donner toute l'information, mais dès que nous aurons toutes les confirmations attendues, bien, on va pouvoir vous partager le plan de la journée et les détails des invités sur notre page et celle de nos partenaires. Je peux par contre vous dire que l'avant-midi, ça va se dérouler sous l'angle de la politique, sous différentes conférences informelles avec des femmes du milieu politique, peut-être même de la recherche. L'après-midi, on va faire la place à des représentantes de groupes communautaires de la région de Québec, comme le projet Lune, par exemple, et le Centre des femmes de la Basse-Ville, pour qu'ils viennent nous parler d'enjeux qu'ils vivent et que les gens qui viennent chercher de l'aide auprès d'eux vivent, ainsi que leur mission. Ça va se dérouler sous forme de quiz interactif. La fin de la journée, il va y avoir un 5 à 7 avec différentes invités qui s'impliquent dans la communauté. Ça, c'est vraiment seulement les grandes lignes, puisqu'il va y avoir d'autres conférences qui vont prendre place entre ces activités. Vous allez aussi pouvoir retrouver des kiosques, mais je vous laisse découvrir très prochainement ce qu'on vous réserve. Pour nous, c'est vraiment une journée qui est très importante. On a mis beaucoup de temps là-dedans. On espère vous y voir en grand nombre et que vous allez pouvoir profiter de cette journée-là avec nous.
Ben oui, parfait. Est-ce que tu avais-tu quelque chose à ajouter? Excuse-moi, je voulais pas te couper.
Non, non, c'est bien correct. Parce que plus j'y pense, puis plus je pense à d'autres activités qu'on prévoit.
Ouais.
C'est sûr qu'on essaye aussi de trouver du temps pour faire d'autres choses, comme par exemple refaire un café de discussion.
Mm-hmm.
Donc, on est là pour la communauté universitaire. Si vous avez des idées d'activités que vous voulez nous proposer, que vous voulez nous appuyer dans l'organisation de quelque chose qui, selon vous, est en accord avec nos missions, bien, gênez-vous absolument pas pour nous écrire sur notre page Facebook parce qu'on est là pour les gens, en fait, puis on est là pour mobiliser la communauté étudiante.
Le message est passé.
Message est passé. Donc, on vous écrit. La meilleure façon de vous rejoindre, c'est votre page Facebook.
Oui.
C'est FEMUL, donc,
c'est
qu'on cherche.
Féministe en mouvement.
Féministe en mouvement
de l'Université Laval. Okay. On est très active. Si vous voulez une bonne source pour être au fait de ce qui se passe, des oppressions vécues un peu partout dans le monde et des avancées.
Parfait.
Aussi, parce que c'est pas que du négatif. Il y a
du positif aussi.
Oui, absolument. Et c'est important aussi de s'arrêter au positif.
Merci beaucoup. Donc, c'était Frédéric Sénéchal et Charlotte Barry, pardon, de la FEMUL. Merci beaucoup d'avoir été là.
Bien, merci beaucoup de nous avoir invités.
Moi, je terminerai peut-être avec Catherine. Demain, on a une assemblée générale extraordinaire.
Oui, c'est important de venir.
Catherine est vraiment contente, mais il y a plein de gens qui sont contents.
C'est important, je pense, les de faire une AG, oui, d'avoir un peu le pouls des membres. Clairement. Donc, l'AG sur la rémunération des stages. Donc,
en partie.
En partie, donc, aussi, sur...
C'est, dans le fond, on présente des positions. C'est sur des positions politiques. Il y en aura une qui sera proposée, qu'on sait déjà, c'est sur la rémunération des stages. Mais aussi, il y aura place à des propositions qui viennent de l'Assemblée. Donc, pendant la soirée, c'est demain, 18h, à l'Espace Jardin. Donc, oui, juste en face du foyer. Soyez là.
Oui, puis c'est super important, on le répète, de venir s'impliquer. La dernière AG qu'on a eue, on a eu plein de belles suggestions de nos membres. On a d'ailleurs un mémoire qui s'écrit en ce moment sur les communautés LGBTQ de l'université, sur le campus de l'Université Laval. Et c'était une proposition d'un de nos membres. Donc, vous voyez à quel point venir à l'AG, ça peut avoir un impact
et un poids
à l'association. Donc, on vous invite demain, 18h, à l'Espace Jardin.
Et nous, on prendra une semaine de pause la semaine prochaine pour la semaine, j'allais dire, de relâche. La semaine de lecture, pardon. La semaine suivante, ça sera la semaine... Nous aussi, on a une activité le 14 mars, qui est la journée de la recherche. Puis on vous parlera de la journée de la recherche pendant cette émission-là. Mardi, donc, le... Je me...